Merci pour ton amour, merci pour ta parole. Elle est un souffle fragile, mais un souffle puissant. Un souffle fragile, mais un souffle qui nous construit, nous fait grandir, nous transforme, nous réjouit, nous permet de grandir dans notre contact et notre relation avec toi. Merci pour ta sainte parole, Seigneur. Merci parce qu'elle nous fait sortir de prison, la prison de nos têtes, de notre chair. Et merci parce qu'elle nous fait voir le jour nouveau. Elle nous fait voir ton espérance, ta vie, ta volonté, ton plan. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te demandons de bénir ces moments où nous voulons l'ouvrir ensemble. Nous te prions Seigneur Dieu, afin que cette parole puisse être active dans chacun de nos cœurs et dans l'Église et dans ton peuple et pour ton royaume. Merci Seigneur pour ces instants. Sois toi-même avec nous et garde-nous justement à l'écoute de ce souffle fragile que tu veux répandre parmi nous. Merci Père, sois béni, glorifié, exalté à jamais. Amen. Alors ce matin, nous allons lire un texte pour ce moment. C'est un texte attendu, bien sûr, pour cette occasion. On ne pourrait pas ne pas le lire. C'est dans le livre des Actes au chapitre 6, versets 1 à 7. Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Alors, ce texte, évidemment, on ne peut pas passer à côté en ce jour où nous sommes rassemblés pour installer les nouveaux diacres de notre Église. Nous voulons reconnaître publiquement leur ministère. Nous voulons les recommander à Dieu. Nous voulons recevoir leurs engagements. Et nous voulons aussi les encourager pour la suite de leur ministère. Mais on pourrait se demander, vous pourriez vous demander, nous pourrions nous demander, pourquoi faire tout un culte autour de ça? Pourquoi en faire tout un foin? Pourquoi s'arrêter sur 3 personnes? En fin de compte, ça ne concerne qu'eux. C'est leur problème, quelque part. Ça ne nous concerne pas, et en soi, le fait qu'ils soient diacres ne change absolument rien à nos vies, ça ne change rien à notre vie spirituelle, ça ne change rien à notre quotidien, ça ne change rien. Et donc pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement les prendre à part dans une pièce à deux, trois, et puis leur dire ben, félicitations et bon courage? Pourquoi est-ce qu'il faut faire tout un culte autour de cette réalité-là? La raison, elle est simple et elle est importante à nommer et à dire ce matin, c'est que les ministères de l'Église, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous comme membres de l'Église, comme membres de l'Église locale, comme membres de l'Église universelle. Les ministères de l'Église, ça nous concerne tous et ça nous concerne au plus haut point. Un des grands problèmes de l'Église, qui est un problème qui a des reliquats dans le passé, c'est ce qu'on appelle parfois le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est l'idée qu'il y aurait dans l'Église des gens qui sont spéciaux, qui sont importants, qui sont proches de Dieu, qui sont mis à part, et puis il y a les autres. Il y a des gens servent Dieu, qui sont consacrés, qui ont une certaine vie, une certaine marche avec Dieu qui leur est demandée. Et puis, il y a les autres qui sont observateurs, qui sont auditeurs, qui sont juste là, qui n'ont aucune importance dans l'histoire et qui sont juste là en train d'observer les autres, en train de servir. Et cette conception est un énorme problème parce qu'elle nous conduit à penser que l'Église et la vie de l'Église ne concernent que les serviteurs de Dieu, les gens établis et tous les autres qui sont en train de travailler. C'est une fausse conception, et cette fausse conception, on peut la casser par une simple phrase. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. L'Église, c'est chacun de nous. Et donc, nous sommes tous responsables de la vie de l'Église. Nous sommes tous concernés par la vie de l'Église. Nous sommes tous responsables de l'avenir de l'Église et nous sommes tous responsables de ce qui se fait dans l'Église. Alors bien sûr, Dieu donne des ministères particuliers dans les Églises. Il donne des pasteurs, des anciens, des prophètes, des diacres, des évangélistes, des docteurs de la parole pour aider l'Église à grandir, pour aider l'Église à croître. Mais le travail des gens qui sont mis à part pour le service de Dieu, ce n'est pas de tout faire pendant que les autres les regardent, c'est d'aider les autres à faire ce que Dieu les appelle à faire. Donc les gens qui sont à l'avant, les gens qui sont responsables, les gens qui sont établis, les gens qui sont nommés pour des fonctions, ne sont pas là juste pour qu'on les regarde et qu'on les acclame, ils sont là pour aider toute l'Église à entrer dans le plan de Dieu et aider chaque croyant à vivre ce que Dieu l'a appelé à faire. Et dès lors, l'institution des ministères, l'institution des diacres, des anciens, de tout autre ministère, ça nous concerne tous, c'est une responsabilité ecclésiale et c'est quelque chose qui a un impact pour notre vie. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure, mais le fait d'avoir 3 nouveaux diacres dans votre église, ça change votre vie. Ben oui, ça change votre vie. C'est un plus dans votre vie. Pour dire, mais moi ça ne change rien, demain je vais devoir aller travailler, je devrais changer les couches de mon enfant. Eh bien, malgré tout, si tu es membre d'une église locale et que des nouveaux serviteurs y arrivent, ça change quelque chose à ta vie. Rappelons-nous ce thème de notre année 2026, « Tout mon plaisir est en toi ». Faire de l'éternel mes délices. Et on a dit que trouver son plaisir en Dieu, c'est le voir comme étant notre délice suprême, notre joie suprême, notre bonheur suprême. Mais prendre son plaisir en Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait. Trouver son plaisir en Dieu, c'est trouver son plaisir dans sa personne, dans sa présence, dans sa parole, dans son peuple, mais aussi dans son œuvre. Le chrétien, le croyant, l'enfant de Dieu est censé prendre plaisir dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu veut faire pour son royaume, dans ce que Dieu veut faire pour l'avancement de son plan. Si j'aime Dieu, si je trouve mon plaisir en Dieu, eh bien je trouve aussi mon plaisir dans l'œuvre de Dieu. Je trouve mon plaisir dans les choses qui sont faites pour le royaume de Dieu. Si j'aime Dieu, je vais prendre à cœur l'annonce de l'Évangile. Si j'aime Dieu, je vais prendre à cœur la formation des disciples. Si j'aime Dieu, je vais prendre à cœur l'édification de l'Église. Si j'aime Dieu, je vais prendre à cœur la croissance de l'Église, le service social, l'annonce de l'Évangile, le service aux enfants, les camps chrétiens, les événements chrétiens. Je le prends à cœur parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de mon Dieu, de mon Père. C'est l'œuvre de mon Père. Pensez à tous ces gens pendant des siècles et des siècles qui ont repris l'entreprise de leur Père. Mon père a travaillé toute sa vie, il était agriculteur, il a fait plein de choses. Maintenant, il est mort, je vais reprendre ça parce que c'est l'œuvre de mon père. Je peux pas dire que j'aime Dieu, que je suis passionné de Dieu, que je trouve mon plaisir en lui, si je ne trouve pas plaisir à son œuvre. Et son œuvre, c'est l'Église. Et son œuvre, c'est les diacres. Et son œuvre, c'est les pasteurs. Et son œuvre, c'est les cultes. Et son œuvre, c'est la prière. Et son œuvre, c'est tout cela. C'est le royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à trouver notre plaisir, à nous y intéresser, parce que ça nous concerne tellement. Nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Ce serait complètement fou, n'est-ce pas, de dire, en fait, Seigneur, je t'aime bien, juste pour la prière, pour un petit peu lire ma Bible. Mais puis ce que tu veux faire, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. L'Église, c'est ce par quoi Dieu veut agir. Dieu veut agir dans le monde. Dieu veut réaliser des choses dans le monde. Et dès lors, ça doit nous intéresser. Et je dirais même plus, ça doit nous passionner. Si je suis passionné de Dieu, je suis passionné par son œuvre aussi. Je prends ça à cœur. Ah, des nouveaux diacres dans l'Église. Hein. L'Église va faire ceci, l'Église va aller là, l'Église va annoncer l'Évangile, il va se passer ça dans l'Église, on va faire telle chose. Je prends à cœur parce que c'est l'œuvre de mon Père. Ça tient à cœur à mon Père, donc ça me tient à cœur. Rappelez-vous, quelle est la première parole qu'on connaît de Jésus dans l'Évangile ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Jésus était occupé aux affaires de son Père. Très souvent, il nous arrive de tomber dans des extrêmes. Alors, un premier extrême, évidemment, ce serait de considérer que la vie chrétienne, c'est aller à l'église ou servir Dieu. Bah, ça se limiterait à ça, quoi. Bah oui, je suis chrétien puisque je nettoie l'église, je fais ça, donc je suis chrétien. Bah, ça, c'est un premier extrême. Parce que tout commence par la relation avec le Christ. Mais un autre extrême, c'est de se dire, en fait, moi, j'aime Jésus de tout mon cœur, mais je ne suis pas intéressé par servir Jésus. C'est un autre extrême qui n'a pas de sens non plus. Parce que c'est l'œuvre de mon Père. Et donc, ça me concerne. Il nous arrive, n'est-ce pas, de ne pas vivre... Pas il nous arrive. Non, ça, c'est une mauvaise phrase. Nous ne vivons pas pleinement la puissance de l'Église parce que nous ne nous sentons pas pleinement concernés par ce qui la concerne. Nous pensons que c'est quelque chose d'à part, alors que ça fait partie de ma vie. C'est une part de ma vie, mon Église locale. Et je dois m'en soucier, me soucier de la vie de l'Église, des enseignements, de l'organisation, des jeunes, et pas seulement le dimanche matin. Nous sommes tous responsables de l'Église, nous sommes tous responsables de reconnaître les ministères, de prier pour les ministères, de les encourager, de leur rendre la tâche facile, de les aider, de les aimer, de les soutenir. Mais quelle est la meilleure manière de soutenir les ministères que Dieu donne à son Église, si ce n'est de comprendre la vision de notre Église et d'avoir à cœur d'y contribuer? Ça, c'est le vrai soutien. C'est le vrai soutien. La petite tape sur l'épaule, c'est bien, mais la petite tape, elle dure 4 secondes. Mais l'implication que nous prenons, quand nous disons, ça me concerne, ah oui, l'évangélisation, ah oui, l'enseignement des jeunes, ah oui, ça me concerne, ça, c'est soutenir les serviteurs de son Église. Ça, c'est faire avancer son Église, parce que nous considérons que ça nous concerne. Voyez que dans l'Église, acte 6, nous avons lu le texte, vous voyez que l'institution des diacres, ça a concerné tout le monde. Toute l'Église était concernée. Premièrement, c'est l'Église qui a choisi les diacres. C'est l'Église qui les a élus pour leur ministère, comme ici. Et deuxièmement, c'est l'Église qui a présenté ses serviteurs aux apôtres qui ont prié pour eux et qui leur ont imposé les mains. C'est l'Église tout entière qui a été responsable de ce processus. Alors revenons quelques instants à acte 6. C'est très simple à comprendre, l'Église de Jérusalem avait une organisation pour organiser des dons de nourriture pour les veuves, puisqu'à l'époque les veuves n'avaient pas d'autre moyen de subsister. Il y avait des veuves juives et des veuves grecques. Et plus les disciples augmentaient, plus il y avait de nombreux disciples, plus il y avait des soucis. Ça, c'est une chose qu'on doit se rappeler, c'est que la croissance, c'est bien, mais la croissance, c'est des soucis. Quand l'Église grandit, c'est plus de soucis. Et donc, dans cette croissance, il y avait des veuves hellénistes, ou en tout cas, les hellénistes, étaient fâchés parce qu'ils avaient le sentiment qu'il y avait un manque d'équité dans la manière de gérer les vivres. Ils trouvaient que leurs veuves étaient négligées dans la distribution des vivres de l'Église de Jérusalem. Et les apôtres ont convoqué une réunion pour nommer des personnes qui allaient se charger de ce problème-là. On voit donc que le diaconat dans l'Église, il est arrivé pour résoudre un problème, pour gérer un problème. Il y avait un problème dans l'Église et ils ont trouvé comme solution de nommer des diacres pour régler ce problème. Tiens, tiens, des problèmes dans l'Église ? Mais on parle de l'Église de Jésus. On parle du peuple de racheté, on parle d'un endroit spirituel. Ces gens-là, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la parole de Dieu, ils sont en communion directe avec Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on parle de problèmes ? Eh bien oui, l'Église, c'est un lieu où il y a des problèmes. Dans chaque Église, il y a des problèmes. Tout simplement parce que dans chaque Église, il y a des humains. Vous connaissez le proverbe de François de Sales ? Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là où il y a des humains, il y a des choses d'humains. Là où il y a des humains, il y a des comportements d'humains. Là où il y a des humains, il y a des défauts, il y a des faiblesses, il y a des problèmes, il y a des insatisfactions, il y a des frustrations. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, il y a des choses d'hommes. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes d'hommes. Et l'Église, c'est un lieu où il y a des problèmes. Même à l'Église de Jumet, il y a des problèmes. Ne m'en parlez pas. Mes cheveux blancs me le disent. Dans l'Église, il y a des problèmes. Dans l'Église, il y a des problèmes. Il y a des conflits entre les personnes. Il y a des incompréhensions. Il y a des problèmes d'organisation. Tout n'est pas parfait. Il y a plein de problèmes. On s'est trompé. On a oublié. On n'a pas envoyé le mail. On ne savait plus trop. On s'est trompé. On ne sait plus où on a mis le truc. Il y a des problèmes. Il y a des mauvaises décisions. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui sont toujours pas contents. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Il y a des gens qui font mal leur travail. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des manques. Il y a des manques de finances. Il y a des manques d'argent. Il y a des manques de place. Il y a des manques de locaux. Il y a des irritations. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Et tous les problèmes qu'il y a sur ton lieu de travail, il y a aussi à l'Église. C'est normal, et c'est important de le dire, parce qu'il y a parfois des chrétiens qui ont l'air de tomber des nues quand ils voient qu'il y a des problèmes dans l'Église. Ils ont l'air de débarquer de la lune en disant « Ah bon, mais je ne savais pas, mais je pensais que tout le monde... » Ben non, c'est un lieu où il y a des problèmes, l'Église. Tout cela est présent dans l'Église comme dans toute organisation humaine. Par contre, ce n'est pas parce que il y a des problèmes qu'il faut laisser tout aller à volo. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut laisser tout le monde s'entretuer. Les apôtres ont estimé qu'il fallait remettre de l'ordre, de la paix et de l'entente dans l'Église. Ils ont estimé qu'il fallait trouver des solutions. Ils ont donc nommé des diacres. Oui, l'Église est imparfaite, oui, il y a des problèmes, mais l'Église doit se structurer. L'Église doit s'ordonner. Il doit y avoir des responsables, ça doit être clair, on doit savoir comment on fonctionne. Pourquoi ? Pour que l'amour de Dieu puisse se manifester et que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut des responsables pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut des diacres pour que l'Église soit ordonnée, qu'elle fonctionne bien et que le nom de Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus n'est pas glorifié quand on se dispute, quand on s'attrape, quand ça ne fonctionne pas. Le nom de Jésus est glorifié quand l'Église grandit bien, quand l'Église est en bonne santé, quand chaque chose se fonctionne bien. C'est ainsi que les choses doivent se faire. Nous devons travailler pour que l'Église ne soit pas un lieu de dispute, de querelle et de haine, mais qu'elle soit un lieu de paix, un lieu d'ordre, un lieu où les choses se passent bien, un lieu où les choses avancent. Et pour cela, il faut des diacres qui ont à gérer certaines choses de la vie de l'Église, à gérer de l'administratif, à gérer des finances, à gérer du matériel, à gérer de l'organisationnel, à gérer du spirituel. Par le service des diacres, l'Église se structure, l'Église se met en ordre. Et quand mon Église locale se met en ordre, je suis heureux parce que mon Église locale est en bonne santé. Voilà pourquoi ça change ma vie. Si je suis un authentique chrétien et que je vois que dans mon Église, c'est le désordre, je suis triste. Ma vie ne va pas. Je dis, mais je suis mal à l'aise. Quand ça ne va pas à votre boulot, n'est-ce pas que vous rentrez fâché, énervé, irrité ? C'est la même chose si je suis chrétien et que l'Église me concerne. Eh bien, ça va me faire mal au cœur de dire, mais dans mon Église, il y a des problèmes, il y a des disputes, parce qu'il y a ça, il y a ça. Mais au contraire, quand l'Église est ordonnée, ça réjouit notre cœur et ça nous fait plaisir. Et c'est pourquoi ils ont choisi des responsables, pas n'importe qui. Des personnes qui ont un bon témoignage, qui sont remplies du Saint-Esprit, qui sont sages. Parce que l'Église doit être gérée, les problèmes doivent être gérés, mais pas n'importe comment et pas n'importe qui. Il ne faut pas nommer dans l'Église des responsables qui vont rajouter des problèmes aux problèmes. Il faut nommer des gens qui vont trouver des solutions et aider l'Église. Pas des gens qui viennent et qui compliquent tout. Et il y a plein d'Églises qui sont tombés dans le trou à cause de ça. Des anciens qui sont là, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Ils viennent dans des réunions, ils donnent leur avis. Ils ne prient pas, ils ne cherchent pas la parole de Dieu. Ils rajoutent des problèmes aux problèmes. Des diacres qui ne savent pas trop de quoi on parle. « Hein, qu'est-ce qui se passe ? Hein, je ne savais pas trop. Hein, il y a une réunion. Hein, je... Ah bon ?» Ils rajoutent des problèmes aux problèmes. Nous devons nommer des responsables qui apportent positivement à la vie de l'Église. Alors, on se demande parfois, c'est quoi un diacre ? Alors, la première réponse, elle est importante à noter, c'est que le diacre, c'est un serviteur à qui les responsables de l'Église confient des tâches particulières. Ça, c'est la première réponse. Ça veut dire que ce sont des mandats spécifiques. Dans toutes les églises, les diacres ne font pas la même chose. Il y a des églises où les diacres font certaines choses et pas d'autres, des églises dans lesquelles les diacres font certaines choses et pas d'autres. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est un mandat, c'est une délégation, une responsabilité que les anciens font à des responsables pour certaines choses. Et donc, ça peut varier. Ça varie d'une église à l'autre, mais ça varie aussi d'une personne à l'autre. Tous les diacres ne font pas la même chose. Il y a des diacres qui ne font que les finances, il y a des diacres qui ne font que le service, il y a des diacres qui s'occupent de tâches spirituelles, des diacres qui sont dans l'organisation. Chaque diacre a son mandat, sa responsabilité que les anciens lui transmettent. Mais on voit quand même dans le texte que les diacres avaient quand même une responsabilité particulière. Alors cette responsabilité-là, on pourrait l'oublier, mais elle est importante. C'est que on voit dans ce texte que les diacres avaient en charge les veuves de l'Église. Ce qui veut dire, et ce qu'on connaît dans l'histoire de la vie de l'Église, c'est qu'au-delà du mandat qu'ils peuvent avoir, qui est divers, il y a certaines responsabilités qui leur sont données en particulier, c'est le ministère de la charité. Le diacre est le ministre de la charité. Le pasteur est le ministre de la parole et des sacrements. L'ancien est le ministre de la direction et de la gouvernance. Et le diacre est le ministre de la charité. Il travaille, en plus de ses tâches personnelles, il travaille à voir comment est-ce qu'on peut faire pour que l'Église soit un lieu où la charité se manifeste concrètement. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'Église, les diacres souvent avaient pour ministère de visiter les pauvres, les orphelins, les malades, de rendre visite, de gérer le soutien matériel, parce que c'est leur charge de veiller à ce que tout cela soit bien géré. Le diacre n'a pas toujours une fonction facile. Le diacre doit aussi veiller sur certaines choses. Il doit aussi faire certaines remarques. Il doit aussi s'assurer que tout fonctionne bien. Mais il le fait pour la gloire de Dieu. Alors le texte nous donne la raison pour laquelle les apôtres ont choisi de nommer des diacres. Dans Actes 6, chapitre 2, Actes 6, verset 2, il est dit « Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas bon, il n'est pas agréable, il n'est pas bon devant Dieu que les apôtres abandonnent le ministère de la parole, le ministère de la prière pour servir aux tables. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que les apôtres, les responsables de l'Église, les fondateurs, les conducteurs, abandonnent la parole de Dieu, la prière, pour s'occuper des tables. Et parce que ce n'est pas bon, nous allons nommer des gens qui vont s'occuper de tout ça, qui vont gérer les problèmes à notre place. Alors, est-ce que c'était de l'orgueil de la part des apôtres? De dire, ah ben, nous, on n'a pas le temps, ils n'ont qu'à faire ça, on va nommer des gens, ils vont s'en occuper. C'est pas du tout de l'orgueil. C'est qu'ils ont compris l'essence de leur ministère. Ils ont compris l'essence de leur appel. Et ils avaient compris que leur ministère à eux comme apôtres, c'était de prêcher l'Évangile, d'instruire les disciples, de prendre des décisions pour le bien de l'Église, de prier pour écouter Dieu, de prier pour l'Église, de prier pour les chrétiens, de former les ministères. Et les apôtres ont dit, mais si nous, on abandonne la prière et la parole, mais ça va pas aller. Ce serait une catastrophe, parce que si les responsables de l'Église abandonnent la prière et la parole, l'Église n'a plus de vision, elle n'a plus de direction, elle n'a plus d'ordre. Ce serait une catastrophe. Sachons-le, dans l'Église, c'est un drame quand les responsables spirituels, les pasteurs, les anciens et les diacres doivent abandonner leur tâche de prière et de parole pour gérer les problèmes de l'Église. C'est un drame. C'est un drame. Ça ne doit pas se faire. Ça fait beau quand on est pasteur de dire « Ah oui, notre pasteur, il est humble, hein, il nettoie la salle lui-même. » Oui, mais c'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. C'est pas son travail. Parce que pendant qu'il nettoie la salle, qui est-ce qui prie ? Pendant qu'il nettoie la salle, qui est-ce qui prépare les prédications ? Ce n'est pas de l'humilité. Le pasteur se consacre à la prière, à la parole, et le reste, ce n'est pas son problème. Quand il y a des offrandes, moi je ne sais même pas ce qu'il y a dans les offrandes, je ne sais même pas ce qui se passe, je ne sais même pas comment, j'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'il y a des gens qui sont nommés pour cela. Alors c'est vrai que Gino et Jean-Pierre, ils ont des restes. Comme c'est des anciens diacres, il n'y a rien à faire, il y a des moments ça remonte. Alors ils ne savent pas se contenir, ils doivent gérer le chauffage, ils doivent mettre de l'ordre et tout ça. Mais il faut les calmer, et vous devez les calmer. En disant, Gino, ce n'est pas ton problème, il y a des diacres, va prier. Jean-Pierre, ce n'est pas ton problème, va prier, va lire ta Bible. Parce qu'on a besoin d'avoir des responsables qui écoutent Dieu pour que l'Église fonctionne. Comment est-ce que l'Église peut fonctionner si votre responsable, vos responsables, ils passent leur temps à gérer les problèmes et ils ne prient pas ? Comment est-ce que ça va fonctionner s'ils n'étudient pas leur Bible ? Ça va être le désordre. Et donc, il y a des responsables qui doivent être nommés pour ça. L'Église a besoin de responsables qui sont proches de Dieu, qui sont à l'écoute de Dieu, qui étudient la parole, qui réfléchissent à comment l'Église doit évoluer. Le ministère diaconal, c'est une aubaine. C'est une bénédiction, le ministère diaconal. Et donc, aujourd'hui, c'est une occasion de joie pour vous, n'est-ce pas ? C'est bien ! C'est positif, n'est-ce pas ? Des nouveaux diacres pour notre Église. Vous allez avoir le renouvellement complet. Un nouveau pasteur et des nouveaux diacres. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Vous aviez avant le pasteur deux chevaux, ça n'avance pas, la deux chevaux n'avance pas, vous allez avoir une Lamborghini maintenant. Et vous avez des nouveaux diacres, des Mercedes, toutes propres, toutes neuves. Quelle bénédiction, n'est-ce pas ? Mais c'est pas une bénédiction juste pour eux, juste pour causer d'eux. C'est une bénédiction pour que l'Église avance, pour que l'Évangile continue à progresser, pour que des âmes continuent à être touchées. C'est important, non pas pour eux, c'est important pour l'œuvre de Dieu, c'est important pour le royaume de Dieu. Et nous le voyons dans le texte. On pourrait le manquer, et c'est vrai qu'on le manque vite parce qu'il y a des titres dans nos Bibles. Et les titres font que parfois on coupe les choses. Si vous lisez le verset, donc verset acte 6, 6, on nous dit qu'on a installé et prié pour des nouveaux diacres. Et le verset suivant dit ceci, acte 6, 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Alors la majorité des commentateurs pensent qu'il y a un lien entre le verset 6 et le verset 7. Le lien n'est pas explicite dans le texte, mais énormément de commentateurs estiment qu'il y a un lien. Avant, jusqu'au verset 6, on nous parle de nouveaux responsables dans l'Église, et au verset 7, on nous dit « l'Église était en bonne santé, l'Église était bien structurée, l'Église fonctionnait bien, et donc la parole de Dieu se répandait de plus en plus ». Le nombre des disciples augmentait et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Parce que l'Église était bien organisée, parce que l'Église fonctionnait bien, la parole de Dieu progressait. Il y avait des cœurs qui étaient touchés. Le nombre des disciples augmentait et une grande foule obéissait à la foi. Lorsque les diacres font leur job, eh bien les anciens et les pasteurs font aussi leur job. Et quand les pasteurs et les anciens font leur job, Alors la parole de Dieu continue à progresser, continue à toucher des cœurs, des vies, des âmes. C'est la raison pour laquelle il nous faut prendre au sérieux le ministère des diacres. Il nous faut le prendre au sérieux et nous devons travailler à ce qu'ils puissent jouer leur rôle pleinement. Alors il s'agit pour l'Assemblée d'abord de prendre le ministère des diacres au sérieux. Il ne s'agit pas de penser ce matin que diacre, c'est juste un titre ronflant pour ne rien dire. Parce que diacre, c'est un titre. Diacre, c'est pas un titre. C'est une responsabilité. C'est pas un titre qui veut rien dire. C'est une responsabilité. C'est un ministère institué par la Bible. C'est une responsabilité que l'on prend. Et dans cette responsabilité, il y a des tâches spécifiques. Il y a des responsabilités spécifiques. Ce n'est pas juste un titre. C'est une charge. Savez-vous, vous le savez, que dans certaines épîtres, l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit, je salue, par exemple dans Philippiens 1, verset 1, il dit, je salue tous les saints, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, et je salue les évêques et les diacres, les anciens et les diacres, dans sa salutation. Ah, ça veut dire que dans son introduction, il dit, je vous salue tous, mais en particulier les anciens et les diacres. C'est pas juste un titre, c'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité qu'ils auront à exercer avec des tâches difficiles. Quand vous aurez des candidats au ministère pastoral, les diacres seront là pour dire, ben, ok, qui êtes-vous? Quelles sont vos qualités? D'où venez-vous? C'est pas juste un titre. C'est une responsabilité au service de Dieu et de l'Église. L'Assemblée ne doit pas faire l'erreur de ne pas tenir compte du diacre. De dire, de toute façon, moi, ce que Génia dit, ça ne m'intéresse pas, je fais ce que je veux. Ou Génia m'a dit quelque chose, mais j'ai été demandé à Gino, comme ça, je fais ce que je voulais. Non. Si elle me dit quelque chose, c'est sa responsabilité. Nous devons respecter et honorer leur ministère, et l'imposition des mains qu'ils vont recevoir, c'est une imposition des mains aussi qui leur donne une autorité pour leur service. L'Assemblée ne doit pas faire l'erreur de tout remettre sur le diacre. En disant, il a été nommé diacre, Eric, il n'a qu'à tout faire maintenant. De toute façon, il est pensionné, il n'a que ça à faire. Moi, il y a un papier par terre, je ne le ramasse pas. Eric est diacre, il n'a qu'à le ramasser. Non, ce n'est pas parce qu'Eric est diacre que c'est lui qui va tout faire. Chacun a son rôle à jouer et chacun doit faire son travail. Il ne s'agit pas non plus pour le diacre de mépriser son propre ministère, d'être négligent, par exemple, de tout prendre à la légère, de ne pas prendre d'initiative, de ne pas tenir ses engagements. C'est une charge que nous prenons et nous devons la prendre avec sérieux, avec amour et nous y consacrer. Un mot qui résume bien le ministère diaconal, c'est le mot dévouement. Le diacre, c'est un dévoué. Et les nouveaux diacres, vous êtes mal barrés avec l'exemple que vous avez. Alors Hélène est partie, mais elle vous laisse son exemple. Ça, c'est mal barré. Ça, c'est mal barré. Il ne s'agit pas non plus pour le diacre de se croire au-dessus des autres, de dire maintenant je suis nommé, donc moi, je crie sur tout le monde, je n'écoute pas les avis des autres, je dirige tout et je m'occupe de ce que je veux. Non, le diacre n'est pas au-dessus des autres, il est en dessous pour servir les uns et les autres. Il ne s'agit pas pour le diacre d'oublier qu'il est au service de tous, de dire, ah ben moi je suis diacre, mais je vais m'occuper de, oui j'aime bien les gens comme ça, oui les Italiens, ça j'aime bien, et puis les autres, non. Non, je suis diacre pour tout le monde, au service de tous. Au sujet des diacres, la Bible nous dit ceci, dans 1 Timothée 3, verset 13, elle nous dit, ceux qui remplissent, c'est au sujet des diacres, donc le passage parle des diacres, 1 Timothée 3, verset 13 nous dit « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Au sujet des diacres. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est un verset qui est compliqué, parce qu'on a du mal à comprendre ce que l'apôtre voulait dire. Mais il y a des choses qu'on peut quand même en comprendre de ce verset au sujet des diacres. Premièrement, le texte dit « Si le diacre remplit bien son ministère, il acquiert un rang honorable. » C'est le texte, vous l'avez lu, hein ?« Il acquiert un rang honorable. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une première chose qui semble être évidente, c'est que si le diacre remplit bien son ministère, eh bien, il va être honoré par sa communauté. On va avoir confiance en lui, on va lui confier de nouvelles responsabilités, on va le laisser proposer des idées, on va lui donner un rang honorable. Quand on va penser à quelqu'un pour une autre charge, une autre responsabilité, on va dire, ah ben, on va commencer d'abord par ces gens-là parce qu'ils remplissent bien leur ministère. Donc c'est un rang honorable. C'est bien que la Bible dise ça. Hein, nous, on pense que c'est juste l'orgueil qui dit oui au rang honorable. C'est la Bible qui dit. C'est un rang honorable. Et deuxièmement, le texte dit, alors rang honorable, certains disent aussi que ça fait référence aux récompenses spirituelles dans le monde à venir. Puisqu'on sera jugé pour notre travail. Et le texte de la parabole des talents dit, celui qui a fait fructifier ses talents, il recevra. Donc certains disent, c'est aussi ça, c'est aussi la bénédiction que Dieu accordera. Et puis deuxièmement, ceux qui accomplissent bien leur ministère acquièrent une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un verset compliqué. Mais ce qu'on peut comprendre de ce verset, et c'est quelque chose d'important, ceux qui accomplissent bien leur ministère acquièrent une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, ceux qui remplissent bien leur ministère, ils vont se voir grandir spirituellement. Ils vont se voir croître spirituellement, développer une meilleure maturité spirituelle, une plus grande communion avec Dieu. Ils vont grandir par leur ministère. Le ministère nous confronte à des situations qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'avait pas pensées. Mais par ce service, on grandit, on apprend. On apprend à prier pour les gens, on apprend les problèmes et on grandit par le service de Dieu. Dès lors, pour les nouveaux diacres et même les anciens, c'est un privilège de servir Dieu. Ne l'oublions pas. Il n'y a que dans notre temps, aujourd'hui, qu'on considère que c'est la pire des choses. Vous savez bien, dans nos églises, les gens, quand ils soulèvent un mouchoir, ils vont tomber en burn-out. Ils disent, oh, oui, non, je n'arrête pas. C'est un privilège de servir Dieu. Alors bien sûr, je ne dois pas négliger ma famille, je ne dois pas négliger ma santé, je ne dois pas ne faire que ça. Mais c'est un privilège. C'est de Dieu dont on parle. C'est de son peuple dont on parle. C'est un privilège. Mais aussi, pour notre bonne Rose, notre bon Patrick. La Bible dit, Hébreux 6, verset 10, et il faut le rappeler comme on l'a fait il y a quelques dimanches, Hébreux 6, verset 10, la Bible dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre ministère. C'est important, ça. Vous vous en fichez, vous. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il sait se souvenir de ceux qui se sont mis à part pour lui. Rappelez-vous le verset qu'on a vu il y a quelques semaines, quand l'ange arrive auprès de Corneille. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Corneille, tes prières et tes aumônes ont été reçues devant Dieu et il t'a entendu. Tes prières et tes aumônes ont été reçues devant Dieu. Rappelez-vous ce texte où Jésus dit, mais je vous remercie parce que vous m'avez visité quand j'étais malade, vous m'avez visité quand j'étais prisonnier, vous m'avez vêtu, vous m'avez... Et il dit, mais quand est-ce qu'on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a visité? Mais chaque fois que tu l'as fait à un plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Chaque fois que Rose a été visiter quelqu'un, c'est à Jésus qu'elle l'a fait. C'est à Jésus qu'on le fait. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens de mépriser le service de Dieu et de dire, moi, alléluia, amen. Non! Quand je prie, qui est-ce que je prie? Je prie Dieu, je prie Jésus. Eh bien, quand je vais visiter un malade, c'est Jésus que je visite. C'est le service de Dieu. Et il est dit aussi, dans Jean 12, verset 26, c'est un encouragement, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Ben oui, Dieu n'est pas amnésique, Dieu n'oublie pas. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors voilà ce qu'on peut souhaiter pour nos diacres, n'est-ce pas ? Mais aussi, prions pour eux, prions pour leur famille. Je l'ai dit, le principe de la parole de Dieu, c'est que celui qui ne prend pas soin de sa famille, c'est comme s'il avait renié la foi. Donc bien sûr que le diacre doit se donner des limites, bien sûr. Mais pas que des limites. Pas que des limites. Par la porte ou par la fenêtre, c'est un service. Ça demande du temps, de l'énergie. Prions pour eux, pour qu'ils puissent être équilibrés, n'est-ce pas ? Comme on sait être dans notre monde. L'équilibre, ça signifie dans notre monde pas grand-chose. L'équilibre, c'est je vis pour moi et les autres qui s'occupent d'eux. C'est mon équilibre. Qu'ils puissent être équilibrés. Que leur famille puisse être bénie aussi. Quand je sers Dieu, j'attire la bénédiction sur ma famille aussi. Et je peux le dire, comme bientôt je serai invisible et inexistant, je peux dire que je n'ai jamais dû être en problème avec Ingrid ou avec Nathalie ou avec Myriam pour le service des anciens. Jamais. Jamais je ne me suis retrouvé à dire « Ouh, yaï, yaï, si je demande à Gino de venir, Myriam va me faire la tête, elle va... » Jamais. Et Dieu sait que parfois, c'est lourd. Mais c'est aussi une bénédiction qu'elles acceptent dans leur vie, n'est-ce pas ? Quand mon mari sert Dieu, je suis béni ou pas ? Ou est-ce que je suis juste béni quand il va jouer au loto et tout ça ? Quand mon conjoint est auprès de Dieu, je suis béni aussi. Alors, pour conclure, parce qu'on a beaucoup parlé d'eux, n'est-ce pas ? Pour conclure, dans la paix, dans la joie, Jean 13 dit ceci. « Je vous ai lavé les pieds, car je vous ai donné un exemple. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Ce n'est pas juste le diacre qui doit servir. Comme dit la Bible, nous devons être serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Ce n'est pas juste eux, ils vont juste nous donner le modèle de ce que nous devons faire. Servir les autres, être disponible pour les autres, être sensible aux besoins des autres. Je suis appelé à être au service de mes frères. Alors est-ce que moi, qui ne suis pas diacre, est-ce que j'entends cet appel ? C'est-à-dire, est-ce que je sers mes frères ? Est-ce que je nettoie les pieds de mes frères ? Est-ce que je me sens concerné ? C'est important parce que c'est une condition pour que l'Église soit bénie, heureuse et qu'elle glorifie le Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous prions, Père, pour que tu nous aides à être serviteurs les uns des autres. Toi, le Seigneur et le Maître, Jésus, tu nous as montré l'exemple. Que nous puissions aussi servir les autres, aimer les autres. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous et tu veux que nous prenions soin de nous aussi. Mais tu nous rends attentifs aux besoins des autres. Parce que tu mets l'amour de l'autre en premier plan. Aide-nous tous, Seigneur, à ne pas nous laisser accaparés par cette mentalité ambiante du 21e siècle qui consiste à ne penser qu'à soi et à son plaisir. Et que nous soyons de véritables disciples qui voient les besoins des autres, qui s'intéressent aux autres et qui sont là pour leurs besoins. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta faveur et pour ta bonté. Amen.